Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Les concombres espagnols importés en République tchèque n'étaient pas contaminés par la bactérie E. coli. Le ministère de la Santé renonce au projet d'augmentation des limites de bruit. La grève des transports en commun à Ostrava se poursuit ce jeudi. Quelques 600 chauffeurs ont manifesté pour l'augmentation de leur salaire. Des analyses réalisées en laboratoire ont permis d'établir que des concombres importés d'Espagne en République tchèque n'étaient pas contaminés par la bactérie E. coli. Cette bactérie à l'origine d'une épidémie partie d'Allemagne et qui s'étend actuellement en Europe a déjà fait 17 morts. Elle provoque notamment de graves diarrhées et des troubles rénaux. De nouveaux cas ont continué d'être signalés ces derniers jours dans le reste de l'Europe, notamment aux Pays-Bas ainsi qu'aux États-Unis. La République tchèque a enregistré à ce jour un seul cas de la contamination à la bactérie E. coli. Il s'agit d'une touriste américaine qui avait récemment séjourné en Allemagne du Nord. Elle a été hospitalisée à Prague. Des analyses sont en cours chez 4 autres personnes. Le ministre de la Santé publique, Leo Hegre, a abandonné le plan d'augmentation des limites de bruit de 60 à 65 décibels dans la journée et de 50 à 60 décibels la nuit. L'information a été publiée ce jeudi par le porte-parole du ministère, Vladimir Sršeň. Le projet prévu par les ministères de la Santé et des Transports en vue de l'harmonisation de la législation tchèque avec celle de l'Union européenne a soulevé une vague de protestations depuis décembre 2010. Plusieurs manifestations se sont déroulées dans le centre de Prague et ils ont été organisés par des associations qui militent contre les nuisances sonores et par les représentants des communes de la région pragoise et des arrondissements de la capitale particulièrement touchés par le bruit. Plusieurs pétitions à l'encontre du projet ont également été lancées. Deuxième jour de la grève des employés de la Société des transports en commun de la ville d'Ostrava en Moravie du Nord. Ce jeudi, environ 600 conducteurs employés par la société ont manifesté dans les rues d'Ostrava pour une augmentation des salaires de 5%. Les dirigeants de la société affirment ne pas disposer de moyens financiers suffisants et proposent une revalorisation de 1,5% cette année, suivie d'une autre identique l'année prochaine. Une proposition rejetée jeudi par les syndicats. La société des transports en commun emploie 2200 personnes, parmi lesquelles plus de 900 conducteurs. Pendant leur grève illimitée, les tramways et les bus à Ostrava continuent à circuler selon les horaires valables le dimanche. Le corps du soldat tchèque qui est mort mardi matin en Afghanistan dans la province de Vardak sera rapatrié dimanche prochain. Avec son véhicule blindé, le tchèque avait heurté un équipement explosif improvisé. Deux autres tchèques ont également été blessés dans l'accident. Le premier reste à la base militaire tchèque de Logar. Le second, dont les blessures ont été qualifiées de graves, a été rapatrié mercredi. Il s'agit du 4e décès d'un soldat tchèque en Afghanistan depuis le début des opérations militaires. Le défenseur central tchèque de l'AC Milan, Marek Jankulovski, va mettre fin à sa carrière à l'âge de 34 ans, a-t-il annoncé mercredi. L'Italie a été ma deuxième maison, tout comme Milan, mais tout a une fin, a expliqué le joueur qui a passé 6 années à l'AC Milan. Côté météo, un temps ensoleillé avec les températures comprises entre 22 et 26 degrés est prévu pour vendredi, jour de la fête des Tamara en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite de notre programme avec Václav Richter. On se retrouve pour le magazine touristique.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. La menace qui pèse sur les centres culturels tchèques, notamment à Paris, à cause d'un arbitrage international. Vous entendrez dans un instant le directeur des centres tchèques, Michail Velner Pospíšil. Une exposition originale sur la corruption en République tchèque sur la place de la République à Prague. Voilà pour le sommaire. Dans la deuxième partie de cette émission, une rubrique touristique consacrée notamment à la réouverture de la ruelle d'or près du château de Prague. Selon l'avocat Yann Calvoda, le tribunal de Paris aurait confirmé la décision de la cour d'arbitrage condamnant la République tchèque à payer un dédommagement de plus de 10 milliards de couronnes, quelque 400 millions d'euros, à la société Diag Human. La société qui se spécialisait dans le traitement du plasma sanguin se déclare lésée dans ses activités commerciales par les décisions des autorités tchèques. La Tchéquie ne considère pas le procès d'arbitrage comme achevé. D'après le serveur Econome.cz, Diag Human aurait déjà demandé la saisie des biens de la République tchèque en France. D'après cette source, parmi les biens concernés et menacés par la saisie, pourrait se trouver le centre tchèque de Paris. Nous avons demandé si une telle menace pesait réellement sur les biens tchèques en France au directeur des centres tchèques, Michael Wellner-Pospichil.
Je ne pourrais pas vous répondre avec certitude, mais je ne pense pas vraiment, puisque le centre tchèque se trouve à l'adresse 18 rue Bonaparte, qui est également l'adresse du consulat tchèque, donc d'un bureau de l'ambassade de la République tchèque en France. Et selon la Convention de Vienne, tous ces lieux-là ont toutes les immunités diplomatiques et sont protégés devant toutes sortes de réquisitions ou de saisies ou autre chose. Donc je ne pense pas vraiment qu'on pourrait être menacé.
Vous avez été pendant de longues années directeur du centre tchèque à Paris. Souvenez-vous d'une situation semblable, situation où des biens tchèques ont fait l'objet d'une saisie ou c'est une situation sans précédent?
Pour moi, c'est une situation sans précédent, mais je pense que cela correspond à un accord international qui est relativement récent, c'est-à-dire de pouvoir demander la saisie à l'étranger des biens d'un État ou de quelqu'un. Donc, je ne pense pas qu'il pouvait y avoir ces cas-là auparavant. Je crois que c'est un accord qui a été fait à New York il n'y a pas très longtemps.
Selon une récente déclaration du ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, la République tchèque devrait se rendre à l'évidence et payer à Diag Human la somme fixée par le procès d'arbitrage. Et cependant, officiellement, la République tchèque ne considère pas le procès d'arbitrage comme terminé et refuse de dédommager Diag Human. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais vous savez, je pense qu'effectivement, avant que le procès ou que la demande soit terminé, on ne peut pas se prononcer d'une manière ou d'une autre. Je pense, comme monsieur le ministre, qu'il faut payer ses dettes, mais il faut encore avoir la certitude que le procès est vraiment, vraiment perdu.
Trois œuvres d'art tchèque déjà, des tableaux d'Emile Fila, de Vincent Benesch et une statue d'Otto Gutfreund ont été déjà saisies à Vienne. Que pensez-vous de l'information selon laquelle le ministre de la Culture, Jiří Besser, aurait donné l'ordre de retirer les œuvres d'art tchèque de l'étranger?
Mais je pense que c'est une réaction tout à fait normale, c'est-à-dire que s'il y a ces dangers-là, il est prudent de mettre à l'abri les œuvres d'art qui sont à l'étranger, mais en même temps, je pense qu'il faut pas chercher à éviter de payer nos dettes. Donc, si effectivement il s'avère qu'il faut payer les dettes, mais il faut les payer.
Est-ce que donc les œuvres d'art tchèques sont vraiment menacées?
Ça a l'air que les œuvres d'art sont menacées, puisqu'elles se trouvent maintenant dans un dépôt du tribunal de Vienne. Mais quelle sera la suite, toute cette affaire-là, c'est vraiment très très compliqué, impossible, en tout cas pour moi, et aujourd'hui, de dire comment ça va se terminer.
Comment une telle situation peut se refléter dans les activités des centres tchèques, en général dans la présentation de l'art tchèque à l'étranger?
Je ne pense pas que cela pourrait se refléter d'une manière vraiment importante, puisque les centres tchèques n'organisent pas des expositions des œuvres d'une grande, grande valeur, puisque nos salles d'exposition ne sont pas vraiment équipées pour ce genre d'exposition, c'est-à-dire nous n'avons pas les sécurités nécessaires, nous n'avons pas la température, l'humidité, etc. surveillées, donc nous ne faisons jamais ce genre d'exposition. Si on fait des expositions de ce type-là, c'est toujours en coopération avec un musée ou une grande galerie, et là nous servons plutôt comme des intermédiaires plutôt que des vrais organisateurs.
Selon les dernières informations, le propriétaire de Diag Human, Josef Stjava, a vendu la société à un acquéreur inconnu. Les experts ne pensent pas cependant que cela puisse fondamentalement changer les exigences de la société vis-à-vis de l'État tchèque. une exposition assez originale sur une des places principales de Prague. 20 panneaux avec photos, illustrations et textes pour 20 des plus grosses affaires de corruption de ces dernières années en République tchèque. Des affaires qui touchent tous les domaines et tous les partis politiques. Alexis Rosenzweig s'est rendu sur place.
À quelques mètres de la station de tramway, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est comme ça qu'on pourrait traduire le titre de cette exposition à ciel ouvert sur la corruption en République tchèque. Une exposition initiée par l'Institut Respect, une association liée à l'hebdomadaire du même nom, qui a plutôt une bonne réputation dans le domaine du journalisme d'investigation. Magdalena Francova est la responsable du projet.
L'Institut Respect a organisé cette exposition dans le but de documenter les principales affaires de corruption dans le pays depuis la révolution de velours de 1989. Nous montrons les traits caractéristiques de la corruption locale, sont décrits le déroulement de ces affaires et également le parcours des principales personnes mises en cause et ce qu'elles font aujourd'hui.
Il y a du beau monde parmi les politiciens touchés par ces affaires de corruption. Plusieurs anciens premiers ministres, dont Václav Klaus, aujourd'hui président de la République, obligé de démissionner en 97 à cause de soupçons de financement occulte de son parti. De gauche comme de droite, ils sont nombreux à traîner quelques belles casseroles collectionnées pendant les années de transition du communisme vers l'économie de marché. Le journaliste d'investigation Jaroslav Spurný a participé au choix des affaires sélectionnées pour cette exposition.
Il y a 4 anciens présidents de parti, 4 anciens chefs de gouvernement pour être précis. On aurait pu mettre beaucoup plus d'affaires dans cette exposition, mais c'est assez révélateur et cela ne surprend plus vraiment en République tchèque. La corruption n'est réellement pas un phénomène marginal, elle est tellement liée au pouvoir qu'elle touche même les chefs de gouvernement.
Je trouve que c'est une très bonne initiative.
Ivana est retraitée, elle est venue exprès sur la place de la République pour voir cette exposition originale.
C'est une très bonne idée, montrer alors tout ce que tout le monde sait, ouais. Mais avec les petits, alors avec les petits tableaux, avec les photos, alors c'est plus intéressant.
Lenka est enseignante, elle secoue la tête en parcourant la vingtaine de panneaux.
C'est effrayant, c'est effrayant. Aucune raison d'être satisfaite par ce qui se passe sur la scène politique. Et encore, il n'y a que quelques affaires ici. On n'aurait pas pu toutes les montrer, ça prendrait trop de place. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul parti politique montré du doigt. Cela n'aurait pas été crédible.
Les gars en haut de l'échelle ont bien fait les choses, dit ce visiteur en rigolant. Ils ont fait passer des lois qui leur ont permis de tout emballer. La directrice du projet pour l'Institut Respect indique qu'en général, les réactions sont positives, même si les gens sont agacés par les pratiques dénoncées sur ces 20 panneaux.
Cela a été assez difficile de sélectionner ces affaires parmi tant d'autres. Avec le journaliste Jaroslav Spurný, nous avons essayé d'avoir une image des 20 dernières années avec plusieurs types de corruption. Donc il y a des exemples de financement occulte, de partis politiques ou également une affaire de trafic de diplômes et de titres dans une université et des problèmes dans des appels d'offres publiques, notamment dans le domaine militaire, ce qui est très problématique en République tchèque.
Au classement mondial sur la corruption établi par l'ONG Transparency International, la République tchèque est arrivée en 2010 en 53e position entre la Jordanie et l'Afrique du Sud. L'actuel gouvernement tchèque avait été élu sur un programme de lutte contre la corruption, sans grand succès pour l'instant. Pour Jaroslav Spurný, cela va peut-être pousser les Tchèques à réagir.
C'est mauvais, mais dans le même temps, cela peut inspirer les citoyens. Parce que s'ils ont élu un gouvernement en pensant qu'il allait résoudre leurs problèmes à leur place, aujourd'hui, ils voient que même avec quelques ministres crédibles, cela ne marche pas. Donc ils voient que s'ils ne prennent pas eux-mêmes les choses en main avec des initiatives civiques, rien ne bouge. Cela va se faire, je suis optimiste.
Après la capitale Prague, cette exposition itinérante sera installée sur les places des principales villes de République tchèque.
Après cette exposition originale, on passe à la rubrique touristique de Radio Prague et de la place de la République à Prague. Nous nous dirigeons vers le château de Prague pour la réouverture de la ruelle d'or et puis également vers la Moravie où se déroule une exposition consacrée à l'art islamique. Tout ça en compagnie de Magdalena Rosinkova et de Pierre Maignan.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc.
C'est ce mercredi après-midi que la Ruelle d'Or, une attraction choyée des touristes visitant le château de Prague, a finalement été rouverte après 13 mois de travaux. C'est le président Václav Klaus en personne, accompagné de sa femme Livia, qui a dirigé la cérémonie d'inauguration de l'un des endroits les plus pittoresques de Hradčany, le quartier où se trouve le château de Prague, à l'origine l'une des quatre villes fondatrices de Prague. Pierre Maignan l'a visité.
La Ruelle d'Or vient de vivre les plus importants travaux de sa longue histoire. Leur montant s'élève à environ 1,5 million d'euros et le chantier a duré plus d'un an. Les canalisations ont été entièrement remises à neuf. L'épreuve du temps et l'afflux massif de touristes avaient contribué à endommager les bâtiments de la ruelle. Les fondations des maisons, en particulier, étaient affaiblies du fait de multiples infiltrations. Elles ont pu être réparées. Des équipes d'archéologues ont, dans le même temps, eu l'opportunité d'entreprendre des fouilles sur les lieux, notamment à partir d'éléments datant du XIIe siècle. La Ruelle d'Or, appelée également Ruelle des Orfèvres, est composée de petites maisons qui furent habitées à partir du XVIe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Les façades de ces maisonnettes ont toutes été complètement repeintes. Les planchers sont neufs et les systèmes de chauffage également. Václav Hrabík a été le chef de projet de ces rénovations. Il revient sur les travaux entrepris et sur le soin apporté afin de respecter la nature des lieux.
Les canalisations ont été installées aux endroits même où elles se trouvaient précédemment. Nous avons donc pris le plus grand soin pour ne pas endommager ces bâtiments historiques. Par ailleurs, nous avons installé des conduits permettant de raccorder le lieu au téléphone et à Internet. Les locataires potentiels seront donc très contents.
Directeur de l'administration du château de Prague, Ivo Velišek ne cachait pas son angoisse à la veille de la cérémonie. Cependant, il se montrait enchanté du résultat des travaux.
Oui, je me fais beaucoup de soucis. J'ai le cœur qui bat la chamade car je veux vraiment que tout se passe pour le mieux. Parmi toutes les maisonnettes, ma préférée est celle de la divinatrice Matilda Prouchova.
Cette même Matilda Prouchova a d'ailleurs fait parler d'elle lors de la cérémonie de réouverture de la ruelle. Elle a effectivement pu lire l'avenir du président Klaus dans les lignes de ses mains. Lecture à n'en pas douter enrichissante, mais dont les conclusions ne seront pas connues du public. D'après un vieux mythe, la ruelle d'or aurait ainsi été le lieu d'hébergement d'alchimistes et autres magiciens férus de sciences occultes que protégeait l'empereur Rodolphe II. En vérité, il en fit d'abord la résidence des archers royaux. Leur fonction devenant obsolète avec le temps, la ruelle accueillit par la suite des fonctionnaires et des artisans, dont bien évidemment ces fameux orfèvres, pour finalement devenir un refuge pour les miséreux de la ville. Cependant, les concepteurs de la ruelle dans sa version 2011 ont pris le parti de faire revivre la légende et de travailler l'aspect mystique du lieu, une orientation qui ne plaît pas forcément à Antoine, un des premiers touristes français à pouvoir visiter le lieu.
Ça reste un petit clin d'œil à l'histoire, et puis, mais moi je me suis pas retrouvé dans le côté... alchimie, vraiment l'histoire, le côté un peu mystique qu'ils ont voulu montrer, je m'y suis pas retrouvé du tout là-dedans. Quoi.
Un des objectifs des travaux était de revenir au caractère mystérieux et enchanteur de la ruelle. C'était en effet un lieu un peu magique, source d'inspiration pour de nombreux écrivains et artistes. Franz Kafka aimait cet endroit au point qu'il s'y installa un temps, entre 1916 et 1917. C'est aussi là que se réunissaient épisodiquement les éminents écrivains et poètes Jaroslav Seifert, František Halas et Vítězslav Nezval. À noter enfin que certaines des façades de la rue avaient été peintes par le célèbre cinéaste d'animation Jiří Trnka. Il est vrai que le caractère outrageusement touristique de la ruelle lui avait fait perdre un peu de son charme. Il s'agissait de rendre la rue plus humaine. Mission accomplie pour l'une des guides du château, qui avoue être séduite par la nouvelle formule.
C'est mieux car ce n'est plus uniquement commercial, ce ne sont plus seulement des boutiques, c'est ce qu'on trouvait auparavant. C'est un peu plus divertissant, on peut y découvrir les aménagements de plusieurs pièces, différentes périodes historiques, différentes époques. On voit assurément plus de choses qu'avant.
Cependant, malgré l'ambition affichée d'en faire un lieu plus convivial, Ivo Velišek a affirmé que les activités commerciales dans la Ruelle d'Or continueront d'occuper une place prépondérante, tout en les présentant sous un aspect plus pédagogique.
L'idée fondamentale est que nous voulions présenter la Ruelle d'Or comme un endroit du château où le visiteur peut découvrir la façon dont à l'époque on vivait ici et comment cette rue fonctionnait. Il y aura aussi toute une gamme de produits qui seront faciles à transporter et que les touristes pourront aisément emporter comme souvenir.
Le volet marchand semble donc tout de même l'emporter sur le côté didactique, qui consiste notamment en une exposition retraçant pour partie la vie de Franz Kafka. Et il semble que cela ne satisfasse pas tout le monde. Ainsi, une touriste française, par ailleurs architecte, a moyennement apprécié cette visite, trop touristique selon elle.
Elle est bien refaite, les couleurs sont sympas, mais c'est vrai que pour moi il y a beaucoup trop de monde et d'avoir misé uniquement sur... ça manque de vie, quoi. On a l'impression d'être dans un décor de cinéma bien fait. Voilà.
Misha Tcherna est guide touristique au château de Prague. Elle regrette pour sa part que cette rénovation n'ait pas été une bonne occasion de proposer une vision plus moderne et innovante de la ruelle d'or.
Novýho jsou tam expozice, jak se žilo dřív.
Parmi les nouveautés, il y a une exposition qui nous montre comment on vivait dans le passé. Personnellement, je pense qu'on aurait gagné à faire de cette ruelle un lieu plus vivant, de ne pas en faire un simple musée. Par exemple, on aurait pu à la place offrir l'opportunité à de jeunes designers tchèques de pouvoir exposer leurs travaux, ou bien quelque chose dans cet esprit. L'orientation choisie me semble assez conservatrice, mais je ne dis pas pour autant que c'est laid.
Beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion de visiter la ruelle d'or dans sa nouvelle parure sont donc sceptiques, surtout que les touristes sont amenés à mettre la main au portefeuille. Pour pouvoir découvrir la fameuse ruelle, ceux-ci devront s'acquitter de la somme de 250 couronnes, une dizaine d'euros, pour accéder au petit circuit du château, ou débourser quelques 350 couronnes, environ 14 euros, pour le grand circuit.
Direction maintenant la galerie Morave de Brno. Elle expose jusqu'au 31 juillet prochain le meilleur de sa collection d'art islamique. Intitulée « Les mille et une nuits », elle montre une sélection de 240 pièces de tapis, tissus, céramiques, métaux, bijoux et armes. Il s'agit par ailleurs d'une première tentative de présenter au public tchèque les arts de l'islam dans toute leur richesse. La collection d'art islamique de la Galerie Morave compte environ 500 objets d'art. L'ancien musée industriel de Brno, fondé par de riches industriels moraves, pour la plupart d'origine allemande, en a pris possession à la fin du 19e siècle, à l'époque des non-goumons pour les cultures islamiques. Il s'agit de dons faits au musée ou encore d'objets achetés lors des grandes expositions universelles, notamment à l'occasion de l'exposition de Vienne en 1873, ou encore de pièces provenant des musées des arts et des métiers autrichiens et allemands. Andrea Březinová est conservatrice à la galerie Morave de Brno. Elle a collaboré à la mise en place de cette exposition.
Ces trois tapis d'Anatolie font partie des objets les plus précieux de cette exposition. Il s'agit d'un tapis Giordes et de deux tapis de Transylvanie. Ce sont des tapis de prière datant du XVIIe siècle. Ils ont été restaurés spécialement pour cette exposition. Ici, vous pouvez voir des étoffes provenant d'Iran, d'Azerbaïdjan et de Turquie. Nous avons dans nos collections près de 500 échantillons de tissus, du brocart par exemple. Nous avons aussi du cachemire. Souvent il s'agit de vêtements que des commerçants et des collectionneurs n'ont pas hésité à couper et à revendre à des musées par morceaux. Le motif le plus connu sur ces tissus est celui de la mangue. C'est un dessin en forme de goutte. Enfin, les chaussures que nous exposons, ce sont en fait des pantoufles pour femmes fabriquées dans les pays du Maghreb et en Turquie.
Une partie de l'exposition « Les mille et une nuits » est consacrée à l'influence de l'orientalisme qui a marqué le tournant du XXe siècle dans plusieurs domaines de la vie et de l'art. Andrea Březinová.
Dans cette salle, nous avons installé une imitation de l'atelier d'un collectionneur européen du XIXe siècle, de quelqu'un qui n'était pas spécialiste, mais plutôt amateur de la culture orientale. La pièce est remplie, voire encombrée d'objets de toutes sortes. Il y a des tapis accrochés au mur, ce qui était très en vogue à l'époque. Ensuite, des tabourets ornés de marqueterie, une étagère, elle aussi richement décorée, qui servait surtout à poser le fez. Nous voyons dans cette chambre aussi une lampe de mosquée, une cruche fabriquée dans les Dardanelles, ainsi qu'une portière qui ne pouvait manquer dans aucune demeure d'un amateur d'art islamique.
L'exposition Les Mille et Une Nuits est à voir jusqu'au 31 juillet prochain dans les locaux du Musée des Arts et Métiers de Brno, rue Husova. Plusieurs manifestations se tiennent dans son cadre, des ateliers de peinture pour enfants, une visite commentée par l'auteur de l'exposition et spécialiste de la culture arabe, Sabena Dvořáková, prévue pour le 24 juin, ainsi qu'un concert ce vendredi 3 juin de la musique des Juifs séfarades expulsés d'Espagne au 15e siècle et qui se sont installés notamment dans l'Empire ottoman. Elle sera interprétée par des musiciens tchèques et syriens. Plus de détails sur le site de la galerie Morave de Brno au www.moravska-galerie.cz.
Merci à Magdalena Hrozinkova et à Pierre Maignan pour cette nouvelle rubrique touristique. Merci de votre fidélité, c'est déjà la fin du programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous sur notre site internet www.radio.cz.